France Inter. Alexandra Ben Saïd, Jérôme Cadet, le 7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 26 octobre. Bonjour Christelle Robière.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, qui a tué Mireille Knoll et pourquoi deux hommes se renvoient la responsabilité du meurtre de l'octogénaire de confession juive? Ils comparaissent à partir d'aujourd'hui à Paris pour meurtre sur personne vulnérable. Les autres titres, Christelle.
Le trésor sera restitué plus de 120 ans après son vol. Il s'agit du trésor d'Abomey au Bénin. Pour Emmanuel Macron, c'est bien plus qu'une restitution, vous l'entendrez. En exclusivité sur Inter. Quand Tesla détrône la Clio, malgré son prix, le modèle 3 d'Elon Musk est le modèle le plus vendu en Europe. Nous verrons pourquoi il séduit malgré son prix. Marine Le Pen chez Viktor Orban, le Premier ministre ultranationaliste en Hongrie, dans les traces d'Éric Zemmour. Il sort de la mêlée, le jeune prodige toulousain Antoine Dupont devient capitaine du 15 de France.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 avec vous Alexandra Ben Saïd.
On reçoit une humoriste qui nous fait rire dans ses One Woman Show et pleurer quand elle incarne à l'écran des femmes confrontées au drame et à la violence comme Jacqueline Sauvage. Cette fois-ci, elle est l'épouse dont le mari est accusé de viol. Actrice engagée, Muriel Robin est avec nous à 7h50.
Et à 8h20, nous serons ensemble pour le grand entretien de la matinale avec la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Jeune, elle avait échappé à la mort après la rafle du Veldiv. À 85 ans, Muriel Knoll a été sauvagement poignardée chez elle à Paris pour des motifs antisémites. L'émotion il y a 3 ans avait été considérable. Elle a été tuée parce que juive avait lancé Emmanuel Macron. Aujourd'hui, deux hommes comparaissent devant le tribunal de Paris. Deux hommes qui n'ont cessé de fournir des versions contradictoires et cessé de se charger l'un l'autre, Mathilde Vinceneux.
Le premier accusé, c'est le fils d'une voisine de Mireille Knoll. Il s'appelle Yassine Mioub. Il la connaissait bien. Le jour du drame, il boit du porto chez elle et invite une connaissance de prison pour passer du bon temps, dit-il, pour la cambrioler, assure le deuxième accusé. Alex Karim Bacus, un marginal aux antécédents psychiatriques, son avocat, Maître Laouafi.
Alex Karim Bacus ne connaissait pas Mireille Knoll et n'avait absolument pas de raison de lui asséner 11 coups de couteau. Parce qu'on parle de ça, on parle de 11 coups de couteau. C'est un vrai acharnement.
Un acharnement qui interroge dans cette affaire. Chacun accuse l'autre. Et la motivation antisémite du meurtre s'appuie sur ce qu'aurait dit Yassine Mioub dans l'appartement, selon son co-accusé. Une référence aux moyens financiers des Juifs, un cri à la Ouagbar. Il y a aussi ce qui a été découvert dans sa cellule. L'avocat de la famille de Mireille Knoll, Maître Goldnadel.
C'est quelqu'un qui a quand même mis vive les frères Kouachi et Koulibaly sur les murs de sa prison, qui va sur les sites islamistes antisémites. Donc voilà, on est sur ce terrain-là du petit antisémitisme crapuleux.
Les deux hommes risquent la réclusion criminelle à perpétuité.
Et l'audience devrait durer 2 semaines. À Lyon, 3 policiers de la BAC ont été pris délibérément pour cible hier soir alors qu'ils surveillaient un trafic de drogue dans le quartier sensible de la Duchère. Il n'y a pas eu de blessés. C'est parce qu'on pilonne ces lieux de deal qu'il y a eu ces tirs, estime le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une enquête a été ouverte. Un trésor restitué à son pays d'origine, le Bénin. 26 objets du trésor d'Abomey, avec des statues totems et le trône du roi Béhanzin, pillé par les troupes coloniales au palais en 1892. C'est la première grande restitution d'objets de collection à un pays africain. Emmanuel Macron l'avait promise il y a 4 ans à Ouagadougou. Une loi a été votée il y a moins d'un an. Mais pour le chef de l'État qui a accordé un entretien exclusif à Isabelle Pasquier de France Inter, c'est bien plus que ça.
C'est pour nous un travail qui consiste à permettre aux sociétés civiles, à la jeunesse africaine, d'avoir aussi dans ses capitales et dans des musées une part de sa propre histoire. Et je pense que c'est très important pour consolider, constituer cette identité narrative et culturelle de chaque peuple africain, de chaque pays. Ça s'accompagne d'une formation des conservateurs, des équipes scientifiques qui vont continuer le travail pour préserver, parce que vous savez aussi que le problème qu'a eu l'Afrique pendant des décennies, c'est le pillage par des équipes africaines de ses propres œuvres, pour les vendre, pour les détourner. Et donc là aussi, c'est un engagement, si je puis dire, réciproque, qui continue de nous lier pour avancer, continuer le dialogue scientifique, de le nourrir. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on continue à faire circuler les œuvres d'art et les œuvres africaines et européennes dans un dialogue. On a à travailler sur la manière dont on bâtit l'universalisme du XXIe siècle. C'est-à-dire permettre à des jeunes Européens d'avoir accès à des grandes œuvres d'art africaines, d'en expliquer la genèse, mais de permettre aussi à la jeunesse africaine d'avoir accès à son art propre, mais aussi à l'art européen.
En attendant, ces 26 objets sont exposés au musée du Quai Branly à Paris jusqu'à dimanche. On y reviendra avec une visite guidée dans le journal de 8 heures. Les États-Unis, à leur tour, condamnent fermement le putsch des militaires au Soudan. Ils suspendent leur aide de 700 millions de dollars qui devait accompagner la transition démocratique. Il y aurait eu des tirs à balles réelles contre des manifestants qui réclamaient pacifiquement l'arrêt des violences. Quand la campagne présidentielle française passe par la Hongrie, le pas encore candidat Éric Zemmour était allé chercher un soutien symbolique auprès du Premier ministre nationaliste Viktor Orban il y a quelques jours. Cette fois, c'est au tour de Marine Le Pen et elle fait tout pour ne pas avoir l'air d'être à la traîne de son principal concurrent, Adrien Becht.
À défaut d'avoir gagné l'épreuve de rapidité, Marine Le Pen entend remporter celle du meilleur accueil. Ses proches se gaussent d'un Éric Zemmour reçu dans une bibliothèque. Eux montrent les muscles et dressent l'inventaire. Réunion de travail ce matin dans les bureaux du Premier ministre populiste pour Marine Le Pen, puis déjeuner, puis déclaration conjointe à la presse. Hier, on a aussi pu voir la candidate dans les rues de Budapest circuler dans un cortège sous escorte policière. Elle l'a d'ailleurs fait savoir sur les réseaux sociaux. C'est presque une visite d'État, c'est d'une autre dimension que Zemmour s'emballe un soutien de la candidate. Minimisé donc, même si Marine Le Pen n'a pas vraiment apprécié la rencontre Orban-Zemmour il y a un mois. Elle qui attendait son tour depuis plusieurs années. Son équipe s'est activée pour accélérer sa propre entrevue avec le dirigeant hongrois, au risque de continuer à donner l'impression d'être à la remorque du presque candidat.
France Inter 7h06, Christelle Robière, la Renault Clio et la Dacia Sandero détrônées par une américaine, c'est historique.
Oui, la voiture la plus vendue en Europe en septembre est une Tesla. La modèle 3, cette voiture 100% électrique au design tout en courbe, reste malgré tout beaucoup plus chère que ses concurrentes. Alors, comment explique-t-on ce succès, Valentin Winato?
Déjà parce que les constructeurs historiques, Renault, Peugeot, Citroën et les autres, sont en difficulté, explique l'économiste Flavien Neuvy.
Le marché automobile européen est fortement touché par les pénuries de composants et donc les grands constructeurs ont plus de difficultés à produire les voitures.
Résultat, une hausse des prix ou un allongement des délais pour acheter une voiture neuve. Le marché automobile européen s'est effondré en septembre, revenant à ses niveaux de 1995. Une situation qui profite à Tesla, pas vraiment perturbée par ces pénuries.
Ils ont la maîtrise de leur logiciel qui sont à bord de leur voiture et quand il y a un composant qu'il faut modifier, ils peuvent plus facilement s'adapter à la pénurie d'un composant que les constructeurs traditionnels.
Et ce ne sont pas les prix des Tesla entre 44 et 120 000 euros qui font fuir les clients.
Tesla réussit finalement avec son design très spécifique à séduire une clientèle qui a clairement les moyens de mettre 30, 40, 50 000 euros dans l'achat d'une voiture neuve.
Et la tendance va encore s'accélérer.
Le potentiel de Tesla, le potentiel de croissance, passera par le développement de modèles qui seront moins chers et qui seront plus accessibles. C'est une stratégie qui est tout à fait pensée, réfléchie et qui fonctionne bien.
Et puis de toute façon, en 2035, les voitures thermiques, diesel et essence ne seront plus commercialisées en Europe.
Et Tesla vient de franchir le cap des 1000 milliards de dollars en bourse, un club très fermé réservé aux géants du numérique, car le loueur Hertz vient de lui commander quelques 100 000 véhicules aux États-Unis. L'avenir d'une planète décarbonée sera donc électrique, on l'a bien compris hier encore avec les scénarios de mix énergétique retenus par RTE qui gère notre réseau. Il mise prioritairement sur le nucléaire via de nouveaux EPR ou des mini-centrales en complément des énergies renouvelables. La présidente de la région Pays de la Loire veut que la centrale de Cordemais, qui fonctionne pour l'instant au charbon, fasse partie de l'aventure. Un sujet pourtant sensible sur place, Hélène Roussel.
Place de l'église, au pied de la centrale et de ses fumées rouges et blanches, certains ont un avis bien tranché.
Il est hors de question qu'on ait une centrale nucléaire à 800 mètres de l'école publique, à 600 mètres de la piscine, sur un lieu inondable, classé Céveso. Donc...
On ne sait pas recycler l'uranium, donc il faut changer les modes de consommation, il faut consommer moins.
Mais le sujet divise.
Bah pourquoi pas? Ça va concerner les emplois, donc c'est pas plus mal.
C'est l'avenir pour Cordemais.
François habite Cordemais depuis plus de 20 ans, passionné par les mini-centrales nucléaires.
C'est rien à voir avec Tchernobyl et Fukushima. S'il y a le moindre incident, les barres de contrôle tombent dans le fond du réacteur et tout s'arrête. C'est vraiment l'idéal, quoi.
Du nucléaire à la place du charbon, le maire Daniel Guillet, lui, laisse la porte ouverte. 500 emplois sont en jeu.
C'est une hypothèse qui peut être intéressante pour le territoire. Hein. Et puis pour assurer la sécurité d'approvisionnement d'électricité sur le Grand Ouest. On en a besoin.
Et les salariés prêt à se reconvertir dans le nucléaire, pourquoi pas?
Techniquement, le site pourrait l'accueillir. On a tout ce qu'il faut, aussi bien la Loire, l'évacuation d'énergie, une voie ferrée, le personnel.
Gwenaël Plagne, de la CGT.
Aujourd'hui, ce qui nous inquiète surtout, c'est comment on fait entre la fin de la centrale à charbon et d'éventuels autres projets. On en a un qui est prêt, c'est EcoCombust. Maintenant, il faut du courage.
Le projet EcoCombust, brûler des déchets verts ou du bois plutôt que du charbon. Un projet rejeté par EDF cet été, jugé trop cher.
Hélène Roussel de France Bleu Loire-Océan. On en reparlera à 8h20, bien sûr, avec Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Quant à la COP26 qui s'ouvre dimanche, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, s'inquiète déjà de son issue. Il est possible que nous n'ayons pas d'accord, dit-il.
Quand la réalité commence à ressembler furieusement à la fiction.
Aux États-Unis, l'enquête cherche toujours à déterminer les causes de ce tir à blanc qui s'est révélé mortel entre les mains de l'acteur Alec Baldwin sur le tournage d'un western et l'assistant réalisateur est dans la ligne de mire, Loïc Loury.
En 2019, sur le tournage de Freedom Space, Dave Holes avait été licencié pour un incident impliquant déjà une arme à feu. C'est ce qu'affirme un producteur du film en question. À l'époque, un membre de l'équipe, explique-t-il sans rentrer dans le détail, avait été légèrement blessé par un coup de feu accidentel. Holes avait immédiatement été expulsé du plateau. C'est lui qui, jeudi dernier, avait tendu l'arme à Alec Baldwin en criant « arme froide », signifiant que le pistolet n'était pas supposé être chargé. Professionnel expérimenté, mais traînant une mauvaise réputation selon plusieurs médias américains, notamment concernant la sécurité sur les plateaux. De l'expérience, Anna Gutierrez-Reed, l'armurière de Rust, également au centre de l'enquête, elle n'en avait pas. 24 ans, un seul film à son actif, c'est elle qui avait préparé le revolver, une arme utilisée quelques heures plus tôt par des membres de l'équipe pour tirer sur des boîtes de conserve. New York, Loïc Loury, France Inter.
Il n'a que 24 ans et il a déjà su se rendre indispensable. Le nouveau capitaine du 15 de France de rugby s'appelle Antoine Dupont. Le demi de mêlée du Stade Toulousain va assurer l'intérim de Charles Olivon, blessé. Une récompense pour le jeune prodige du top 14, Fanny Lechevestrier.
Sur le terrain, rien à dire. Le choix d'Antoine Dupont est logique, tant son emprise sur chaque match est grande. Pour l'ancien demi de mêlée international Guy Akosseberi, pas de doute, le Toulousain est actuellement le meilleur joueur du monde. De là, le propulsé capitaine des Bleus, notre consultant rugby se montre un peu inquiet.
Actuellement, c'est le Superman du rugby français, ça c'est indéniable. Mais moi j'ai peur, moi être capitaine de l'équipe de France, c'est pas anodin, ça veut dire de la médiatisation supplémentaire, ces conférences de presse, les sollicitations qui vont être encore plus grandes. Il va devoir se forcer, le fait de se forcer, est-ce que ça va pas le perturber pour ses matchs après ?
Car Antoine Dupont va donc devoir aussi revêtir le costume de Superman hors des terrains et laisser l'image de Clark Kent un peu timide qu'il montre parfois, mais c'est peut-être une façon de l'habituer en vue de la Coupe du Monde en France en 2023, s'interroge Guy Akosseberi.
Il nous faut un joueur à mettre en avant, je veux dire une tête de gondole, comme l'équipe de France de foot a son Mbappé. Nous, on avait Antoine Dupont et le fait de mettre Antoine capitaine, voilà, va mettre encore plus ses projecteurs sur le joueur et donc sur l'équipe de France.
Pour le moment, le staff des Bleus n'a parlé que d'un relais avec Charles Olivon pour un capitaine à 3 matchs, mais avec Super Dupont, rien n'est impossible.
Et la tournée des Bleus avec donc Antoine Dupont capitaine débute le samedi 6 novembre avec France-Argentine au Stade de France. Il n'y aura pas de mêlée d'automobiles ce matin en région parisienne, c'est une bonne nouvelle. L'autoroute A13 a été rouverte à la circulation hier soir au niveau du tunnel Ambroise-Paré à la sortie de Paris. Après 26 heures de coupure due à un vol de câble.
Ça roule donc. Merci Christelle Rebière.